Vous écoutez Vie d'aventure par Denis Brognard.
Mon invité cette semaine, une femme au parcours singulier, Elisabeth Revol. Alpiniste d'exception, amoureuse de toutes les montagnes, avec un faible pour la chaîne de l'Himalaya. Son histoire, ce sont des ascensions souvent en solitaire, avec à son actif 8 sommets à plus de 8000 mètres d'altitude en 11 ans, dont le Nanga Parbat, avec Thomas Makiewicz, un alpiniste polonais qui perdra la vie lors de la descente. Installez-vous, on va grimper, escalader des parois inviolables pour le commun des mortels. Bonjour Elisabeth Revol.
Bonjour Denis.
Je suis ravi de t'accueillir dans Vie d'aventure, car tu as un parcours incroyable d'alpiniste, d'himalayiste comme on dit. Un parcours plutôt discret, anonyme, jusqu'à cette fin du mois de janvier 2018, où ton ascension et surtout ta descente du Nanga Parbat, sommet himalayen à 8125 mètres d'altitude, se transforme en cauchemar. Tu vas perdre ton compagnon de cordée, Thomas Makiewicz. Alors on va en reparler évidemment de ce moment très particulier, mais je voudrais d'abord, Elisabeth, qu'on revienne au point de départ, à cette passion de la montagne qui te gagne, et à nous, dans les Alpes, pas très loin de où tu vis.
Effectivement, on passait juillet dans un alpage, dans Caillou. Et à partir de ce moment-là, il y avait tout. Il y avait l'odeur, les immensités, les odeurs de fourrage, les fleurs, ces sommets qui aimantent et qui accrochent le cœur. Et je crois qu'à partir de là, je suis tombée amoureuse tout simplement de ces sommets, et de ces immensités et de la nature.
Et alors, à quel moment tu décides de passer à l'action ? C'est-à-dire de les collectionner, ces sommets, et de devenir l'alpiniste aguerri qui partira ensuite dans l'Himalaya ?
Bah ça s'est fait finalement un petit peu sur le tard, parce que quand j'étais jeune, j'ai pratiqué la gymnastique pendant de longues années en compétition. Et quand j'ai commencé mes études pour être professeur de PS, à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai toujours rêvé en fait de grimper sur ces sommets. L'altitude 4000, ça m'est monté, le sommet du Mont Blanc, tout ça. Donc là, je me suis dit, et pourquoi pas, va grimper. Et nous, on avait une salle d'escalade en fait à côté de notre université. Et là, j'ai commencé à grimper. Et forcément, ça a tout de suite été le coup de foudre.
Et assez rapidement, en 2006, tu te dis, bon, les Alpes, c'est bien, mais j'ai envie d'aller plus loin et surtout plus haut. Et tu pars pour la Bolivie pour ton premier 6000.
Oui, exactement. À partir du moment en fait, où j'ai mis un pied en montagne, après, je vais dire que j'ai été boulimique en fait, de sommets et je passais tout mon temps à arpenter les Alpes, donc tous ces sommets un petit peu mythiques que je voulais parcourir. Et après, j'ai toujours eu en fait, l'altitude qui m'a attirée. Donc pour moi, j'étais contente quand je gravissais un 5000 ou après un 6000 ou après un 7000 ou un 8000. Et c'est vrai que ces chiffres-là ont été vraiment symboliques pour moi et j'ai vraiment tout le temps voulu y aller, quoi. Non, en 2005, j'ai la chance en fait d'intégrer l'équipe jeune alpiniste de la fédération et on est formé par des guides pendant 2 ans sur tous les terrains et en fait ça se termine par une expédition et donc nous notre expédition elle était en Bolivie et c'est grâce à ça en fait que j'ai fait mon premier pas sur des expéditions et que j'ai découvert d'autres massifs montagneux que les Alpes.
Elisabeth, ce qui est très important dans ce podcast Vie d'aventure, c'est que tu puisses traduire par des mots les sensations que tu vis quand tu es sur les sommets, à tutoyer les étoiles, à tutoyer le ciel.
Bah justement, l'émotion moi, qui s'est emparée de moi quand j'étais au sommet du Pequeño Alpamayo, c'est la première fois en fait, que je grimpais au-delà de 5000, donc c'était un 5005 en Bolivie. Et j'étais toute seule parce que mon collègue, il était pas très bien, donc il était resté au camp de base en fait, cette journée-là. Et je pense que quand on va vivre en fait cette aventure et qu'on est seul à décider et qu'on se bouge en fait pour y aller parce qu'on a vraiment ça en fait au fond de ses tripes et qu'on vive en fait cette immensité et cette altitude. Moi là-haut, quand je suis arrivée là-haut, j'étais dans un état émotionnel qui était mais vraiment débordant où je pleurais, je criais en même temps, je remerciais le ciel. Et c'est un moment qui est gravé en fait à l'intérieur de moi. Et là, quand j'en reparle, ça me donne des frissons en fait encore partout parce que c'est une émotion que j'ai pu vivre simplement là-haut et dans la vie de tous les jours, je peux pas arriver à la vivre.
Elisabeth, c'est formidable parce que là, on grimpe avec toi. Et ce qui est intéressant dans le fait d'être seul, c'est que finalement, ton histoire, ton destin sera d'être beaucoup plus souvent en duo. Allez, tout de suite, ce que je te propose, c'est qu'on s'intéresse au rêve, au graal de tous les alpinistes, aller dans l'Himalaya et gravir des sommets à plus de 8000 mètres d'altitude. Ça se passe pour toi en 2008, tes 3 premiers 8000 au Pakistan.
Oui, ben je savais pas comment mon corps réagirait, je savais pas si déjà j'étais capable en fait de grimper sur un seul 8000, mais j'ai dit j'y vais. Et peu importe ce qui viendra, donc en gros, j'ai mis toute ma motivation et toute mon énergie en fait dans ce projet. J'ai trouvé des partenaires financiers, j'ai trouvé du matériel, je me suis entraînée comme jamais et je suis partie. Et à partir du moment où on construit ce projet du début à la fin et qu'on s'est donné tous les moyens pour le vivre, bah forcément, ce que j'ai vécu là-haut, ça a été un truc de dingue.
En 2009, l'année suivante, tu gravis l'un des sommets les plus célèbres de l'Himalaya, l'Annapurna, et tu pars en duo avec Martin Minarik. Et ton destin se construit sans doute à ce moment-là. Parce que dans la descente, dans des conditions climatiques terribles, eh bien Martin disparaît.
On était parti sur un itinéraire qui était long, qui était engagé, et on savait qu'on ne pourrait pas revenir en fait par le même itinéraire parce que c'était beaucoup trop exposé. Donc on devait redescendre en fait de l'autre côté de la montagne. Et c'était un itinéraire qu'on ne connaissait pas. Donc Martin, lui, il était pas très bien. Donc c'était moi qui partais devant en fait pour repérer en fait la voie, repérer cet itinéraire et qu'on perde pas de temps parce qu'on savait qu'il y avait une tempête qui arrivait dans peu de temps. Donc on était séparés, on avait décidé en fait de pas utiliser la corde parce que c'était pas un terrain crevassé et on pouvait tout à fait évoluer de façon séparée en fait sur la montagne. Mais moi, j'anticipais en fait à chaque fois les passages. Et à un moment donné, en fait, la tempête est arrivée. Sauf que quand t'es en montagne, la tempête arrive, bah ça arrive très brusquement. Et il s'est mis à neiger 20-30 cm, ça a tout recouvert, ça a recouvert toutes les traces. Et là, on s'est perdu, moi je ne l'ai jamais retrouvé.
Vous étiez à quelle distance l'un de l'autre ?
On était à distance visuelle, donc c'est pas facile en fait à dire, parce qu'à chaque fois le relief change, mais on était à moins de 500 mètres l'un de l'autre. Et chaque fois, dans tous les cas, moi je me retournais et que je ne le voyais plus, j'attendais qu'il me rejoigne. Donc on n'était pas très loin, mais sauf que comme je dis, une fois que le brouillard arrive, et ben 500 mètres, dans tous les cas, c'est trop loin, quoi.
Alors, Elisabeth, comment ça se passe à ce moment-là ? On part à deux, on est éloigné mais quand même à vue, et puis on ne voit plus son partenaire. On le cherche, on passe du temps, on panique. Comment tu as réagi à ce moment-là ?
Ben moi, j'étais complètement perdue à ce moment-là, donc j'étais comme un chien fou, en fait. Moi, je suis partie sur mes traces, qui au départ était là, puis après, en fait, ça a tout été recouvert par la neige. Donc moi, je suis remontée sur le dernier point où je l'avais vu. Et là, les traces avaient disparu, mes traces avaient disparu, ses traces avaient disparu. Et donc là, moi, j'étais complètement désorientée. Je ne savais plus quoi faire, où il se trouvait. Et j'étais perdue. Moi, j'étais dans un moment de solitude qu'on ne peut pas imaginer. En fait, on est dans un moment de désespoir et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et moi, à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi je ne le retrouvais pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il a dévissé ? Est-ce qu'il est tombé dans une crevasse ? J'étais dans l'inconnu la plus totale et j'étais dans un état de panique qui est là et qui fait que, je ne sais pas comment on réagit, mais voilà, c'est le cerveau qui est dans un instinct de survie à essayer de glaner un maximum d'informations et de trouver une solution, quoi.
Et aujourd'hui, tu sais ce qui lui est arrivé ?
Non, aujourd'hui, je ne sais toujours pas. Et moi, ça m'a rongé.
On ne l'a jamais retrouvé.
On ne l'a jamais retrouvé. On ne sait pas ce qui s'est passé là-haut. On ne sait pas.
Ça doit être dur à vivre, de se dire, il a disparu, quelques minutes avant, il était avec moi, et je ne sais absolument pas ce qui lui est arrivé.
Oui, moi, ça m'a rongé pendant 4 ans, en fait. Moi, j'avais que des questions, j'avais aucune réponse, et je pense que ça, c'est la chose la plus difficile qu'on ait à vivre, parce qu'on aura. Moi, j'ai jamais eu ces réponses. Donc, je suis toujours dans le « et si, et si, et si » et le conditionnel.
Tu restais combien de temps sur place à essayer de le chercher ? Parce qu'ensuite, évidemment, il y avait aussi ta propre sécurité, ta propre vie. Tu ne pouvais pas tarder, compte tenu en plus des très mauvaises conditions climatiques.
Je ne sais pas combien de temps je suis restée là-haut, parce qu'en fait, à partir du moment où on a un pépin en fait, en montagne, le temps se dilate complètement et ça passe à une vitesse qui est assez incroyable. Mais je pense que je suis restée plus de 4-5 heures là-haut avant de prendre la décision de dire, mais voilà, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis revenue 50 fois sur mes pas. Je ne sais pas où il est, c'est la tempête. Ils annoncent extrêmement mauvais pour les prochains jours. Il faut décider, quoi. Donc, le temps qui s'est passé là-haut, je ne sais pas. Pour moi, ça a duré une éternité, mais en même temps, c'est passé comme une fraction de seconde, quoi.
Et quand on décide de partir ?
Ben moi, je décidais de partir, en fait, du coup, pour aller chercher les secours et pour voir ce qui s'était passé.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette incertitude, ces questions sans réponse, t'obligent à stopper ta carrière d'alpiniste pendant 4 ans. Là, tu te lances à corps perdu dans une autre aventure, dans un autre univers, les raids multisports, où tu deviens, avec ton équipe championne d'Europe. Est-ce qu'on peut dire que cette période, que ces 4 années, c'est finalement le temps de ta déprime post-traumatique ?
Oui, je pense. Parce qu'à partir du moment où on vit un traumatisme, on ne veut pas le revivre. Et moi, c'est vrai que j'avais que des questions. Et je m'étais lancée en fait, un peu corps perdu en fait, dans tous ces sommets qui me faisaient rêver. Mais là, le poids était trop lourd, en fait, et je me suis dit, mais à quoi bon ? Si c'est pour y laisser la vie, je veux pas continuer, en fait, dans ce chemin-là. Donc j'étais obligée, moi, de faire un break et de déprimer et d'arrêter complètement les expés, d'arrêter complètement les projets, de basculer, en fait, sur une autre activité qui m'a comblée et qui m'a amené, en fait, autre chose et qui m'a permis de décrocher de ces sommets, de ces questions et de Martine.
Quatre ans se passent, on est en 2013, et là commence ta grande aventure avec le Nanga Parbat, sommet à 8125 mètres d'altitude, le 9e plus haut sommet du monde, appelé aussi montagne tueuse ou montagne nue. Comment tu fais connaissance ? Comment tu rencontres le Nanga Parbat ?
Alors en fait, l'histoire avec le Nanga Parbat, moi quand en 2008, j'ai pris un vol intérieur. Et on survole en fait ce massif qu'est le Nanga Parbat. Donc c'est un sommet qui est vraiment isolé et c'est une masse qui est imposante d'avion. En fait, on voit que ça. Et moi, mon regard, en fait, il a été complètement aimanté par ce glacier, par ces arêtes déchirées, par cette masse montagneuse isolée. Et je me suis dit, waouh, un jour j'ai envie d'aller voir sur cette montagne qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle était tellement démesurée, tellement grande. Après, j'y suis pas allée tout de suite, parce que voilà, il y a eu l'Annapurna, et donc je me suis dit, je n'irai pas. Mais j'avais gardé en fait un lien avec tous les grimpeurs, tout mon réseau, et forcément, on était tous un petit peu aussi attirés par ce Nanga, par les conditions hivernales, qui à l'époque aussi était un petit peu un challenge, parce que c'est une montagne qui n'avait pas été gravie en hiver. Et donc du coup, en fait, ce projet il s'est construit petit à petit. Dès 2011, en fait, je commence à y penser. Et dès 2013, en fait, ça se concrétise.
2013, tu tentes donc le Nanga Parbat. Tu échoues avec quelqu'un qui est très important pour toi, hein, l'alpiniste italien Daniele Nardi, qui disparaîtra d'ailleurs dans le Nanga Parbat en mars 2019. Pourquoi tu n'as pas réussi sur cette première tentative ?
Parce qu'en fait, il faut savoir que les hivernales, c'est extrêmement compliqué et je pense qu'on peut pas y aller une fois et atteindre un sommet. C'est impossible. Chaque grimpeur qui a réussi à poser un pied en fait au sommet d'un 8000 en hiver, il est passé par tout un tas d'expériences et tout un tas d'échecs avant. Et il faut savoir que voilà, tous les grimpeurs, comme je te disais, on est passé par 3-4 échecs avant d'atteindre finalement le sommet, parce que ce sont des conditions extrêmement compliquées. On joue pas.
On le verra avec Thomas Makiewicz, hein, tenter 7 fois pour réussir à atteindre le sommet. Finalement, on comprend, empirique, l'alpinisme, qu'on y va un peu à tâtons. 2015, là, c'est le début de ta grande collaboration avec ce Thomas Makiewicz, puisque par 3 fois, tu vas tenter l'ascension du Nanga Parbat. C'est un alpiniste qui ne ressemble à aucun autre. J'ai envie de te dire, c'est un homme différent. C'est aussi pour ça que tu as eu envie de tenter ce Nanga Parbat avec lui ?
Oui, je pense que Tomek, en fait, la première fois que je l'ai vu, il m'a touchée.
Tomek, c'est son surnom ?
Oui, c'est son surnom, ouais. Il avait une démarche, en fait, qui est complètement différente, en fait, sur la montagne, et c'était pas la performance, en fait, en premier, c'était sa montagne intérieure, en fait. Et ça m'a touchée, ça m'a amenée, en fait, à autre chose. Et lui, c'était aussi le monsieur du Nanga. Il avait passé des nuits assez incroyables, en fait, sur cette montagne. Une fois, il avait passé 7 nuits à 7500 mètres d'altitude, tout seul dans une grotte. Et c'était quelqu'un d'extrêmement résistant, qui avait une connaissance en fait de ce montagne qui était incroyable. Donc il m'a énormément en fait amené, et pour moi ça a été tout naturel en fait de partir sur cette ascension avec lui.
Ce qui est dingue, c'est que quand on lit un petit peu ce qu'il était, Thomas Makiewicz, Tomek comme tu l'appelles, c'est que il n'avait absolument pas la rigueur d'un sportif de haut niveau.
Non, pas du tout. Ouais.
Il fumait. Il était beaucoup plus fort mentalement que physiquement, et ça va forcément à un moment lui jouer des tours.
Oui, effectivement, c'était quelqu'un de complètement en décalage par rapport à mes partenaires de grimpe que j'avais habituellement, qui étaient forts, qui s'entraînaient. C'était un doux rêveur. Donc, comme il disait, il partait plus avec un sac de rêve qu'avec un sac de compétences ou de performances. Et voilà, comme je disais, lui, c'était vraiment important pour lui de construire en fait sa montagne intérieure. Et quand il est arrivé en fait sur le Nanga, ça l'a sorti un petit peu de toutes ces périodes de crise qu'il avait eues dans la jeunesse. Où lui, quand il est arrivé à l'âge adulte, il avait tout simplement pas sa place, et c'est ce qui l'a amené dans des dérives assez importantes au travers de sa vie. Donc ouais, c'était quelqu'un qui était touchant par rapport à ça, qui à côté de ça était extrêmement fort, qui avait un mental de dingue et qui n'abandonnait jamais. Donc là-haut, je savais que quand je partais avec lui, on y allait et il avait la motivation, on pouvait passer du temps sur la montagne et on pouvait continuer à avancer, alors que beaucoup d'autres grimpeurs aurait dit non mais attends, là il y a une perturbation qui arrive, moi je redescends au camp de base, je veux mon confort. Lui, il n'avait pas besoin de ce confort-là, il était bien là-haut et il était en communion finalement avec cette montagne et on pouvait continuer.
Est-ce qu'on peut dire, Elisabeth, qu'en 2015, en 2016 et en 2018, lors de vos 3 tentatives, vous n'étiez pas 2 mais finalement 3, puisque vous étiez emmené aussi par cette déesse, la déesse du Nanga Parbat, la déesse Féri?
Exactement, en fait en 2015 je découvre Féri parce que même en fait en 2013 effectivement j'avais entendu parler de cette divinité, de cette légende, mais j'y avais pas prêté attention. Et c'est vrai que Tomek il était tellement imprégné en fait de Féri et tellement en communion en fait avec cette divinité sur la montagne que oui, à partir de 2015 on est 3 à grimper et forcément Tomek c'était pas sans Féri, donc forcément ils étaient 2. Donc ouais, moi ça m'emmenait en fait dans un imaginaire qui était débordant et qui cassait finalement toutes mes croyances et toute ma routine finalement de vie. Et je pense que c'est ça aussi qui est beau dans la vie, c'est qu'on croit à plein de choses et au final, on sait pas si on est dans la vérité parce que ce sont nos propres croyances.
Avant de revenir sur 2018 et cette montée d'abord magique et puis cette descente dramatique, revenons sur 2015 et 2016, vos 2 échecs en commun avec Tomek. Qu'est-ce qu'il vous manquait à ce moment-là ?
En 2015, en fait, on arrive à 7008 et là, il y a le temps qui se dégrade et on sait que si on se lance sur les 300 mètres qui restent, on ne reviendra pas. Sur le Nanga, on sait qu'on ne doit pas prendre de risques. On sait qu'il y a une fenêtre météo qui doit tenir minimum un jour, voire 2 jours, pour pouvoir monter en fait au sommet et avoir le temps de redescendre avant que la perturbation arrive. Parce que s'il y a une tempête qui arrive, on n'a plus notre place et on sait qu'on ne va pas pouvoir tenir. Enfin, dans tous les cas, moi, je ne pouvais pas tenir une semaine dans le mauvais temps. Autant Tomek pouvait tenir, moi, je ne pouvais pas tenir. Et ça a été pareil en fait en 2016 après, où on avait tenté aussi le créneau de janvier, ça n'a pas tenu. Il faisait extrêmement froid cette année-là, il faisait moins 50 et on était à 7005. Donc on savait que si on allait au-delà, on s'exposait à des risques de gelure et à des complications. Et donc là, on n'a pas pris le risque en fait, de continuer.
Elisabeth, on va maintenant s'installer dans la dernière tentative. On est au début de l'année 2018. Vous venez, Tomek et toi, de passer 3 semaines bloqués par le mauvais temps. Et puis d'un seul coup, cette fenêtre s'ouvre et vous partez tous les deux léger pour un aller-retour au sommet du Nanga Parbat. C'est la 7e tentative pour Tomek, la 4e pour toi et votre 3e en commun. Et à ce moment-là, là tu te dis, on va enfin y arriver.
Oui, alors quand on est parti, j'étais secouée par un cocktail d'émotions. Quand on est arrivé en fait au camp 3, après on savait qu'on avait 3 jours de beau qui nous permettaient de faire 7 allers-retours au sommet et de revenir en fait au camp de base de façon sereine. Et donc à partir du camp 3, on a dit ok, ben là on tente, on y va. Après nous, du camp 3, on a fait le camp 4. Le camp 4, on l'a posé en fait à l'intérieur d'une crevasse. Et du camp 4, après au sommet, on est monté en une journée et après on devait redescendre en fait du camp 4 directement au camp de base.
Alors on est quasiment au sommet. Vous le tutoyez, vous le touchez en tendant les bras. Vous êtes tous les deux à 90 mètres de ce sommet. Et c'est là qu'il faut prendre la décision. Elisabeth, tu es devant depuis le départ. Tu es en meilleure forme physique que Tomek, qui montre des signes plus que de lassitude. Et là, finalement, tu décides que vous y allez.
Je me dis, on est à 90 mètres du sommet. Donc là, moi, j'ai attendu Tomek. Et on a décidé, en fait, ensemble. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ou on fait demi-tour ? Et là, en fait, on était motivés encore tous les deux. Donc même nous, on était fatigués. Ça faisait une journée qu'on avançait, en fait, finalement, sur cette montagne. Mais on avait encore l'énergie et les ressources et la motivation, en fait, pour y aller. Et je pense qu'à ce moment-là...
Et la lucidité aussi.
Et la lucidité, complètement. Ah bah oui, sinon, sans la lucidité, c'est... Enfin, c'est pas la peine. Enfin, on continue pas là-haut. À partir du moment où on commence à décrocher, on sait qu'on n'a plus sa place et qu'il faut faire demi-tour. Donc je pense que voilà, à ce moment-là, Tomek, il m'aurait dit « Non, je me sens pas de continuer. » Ou moi, je lui aurais dit « Écoute, moi, au niveau timing, je le sens pas. » Enfin, dans tous les cas, on aurait exprimé un doute, ne serait-ce qu'un doute, dans le regard ou dans la parole, on aurait fait demi-tour. Mais à ce moment-là, tout s'est synchronisé et tout nous a emmené finalement vers le haut, quoi.
Là, on est d'accord, à ce moment-là, c'est un grand bonheur. C'est un sentiment de plénitude. Il n'y a pas de doute dans ton esprit.
Il y avait encore des doutes parce que voilà, je savais que la nuit, en fait, elle allait nous rattraper. Mais finalement, je m'étais déjà fait la démarche aussi dans ma tête et Tomek probablement aussi, où on s'est dit, il vaut mieux atteindre un sommet en fait en fin de journée que d'y arriver en fait en début de journée où le froid il est beaucoup plus mordant après la nuit que après une journée où il y a eu du soleil en fait sur la montagne. Donc on savait que la nuit allait nous rattraper, mais finalement que c'était pas un problème parce que moi j'avais déjà eu des expériences où j'arrivais au sommet de nuit et redescendre de nuit et il y avait pas de souci en fait de ce côté-là. Pour nous, les voyants étaient ouverts et même si on n'était pas encore sûr d'atteindre le sommet à ce moment-là, on était en marche pour y aller, quoi.
Vous atteignez enfin le sommet, 7e tentative, je le rappelle, pour Tomek, 4e pour toi. Raconte-nous ce qui se passe entre vous à cet instant-là.
Ben en fait, moi, je suis arrivée au sommet en première et j'ai attendu en fait Tomek. Moi, j'ai eu un moment en fait où j'ai pu m'imprégner en fait de ce sommet, de cette immensité et de poser un petit peu toutes les choses. Là-haut, il y a quelque chose d'incroyable en fait qui se passe parce qu'on est dans un moment de grâce, dans un moment de gratitude. On a un pied sur terre, mais finalement, notre esprit, il est plus haut, il est dans les étoiles, il est connecté avec tout un tas de personnes en fait qu'on aime. Moi, j'ai pensé à mon mari, j'ai pensé à la femme de Tomek. Il y a tout un tas de choses en fait qui se mettent en place et qui plein de petites choses en fait qui nous arrivent dessus et un émotionnel en fait qui est vraiment débordant. Et ça, c'est propre en fait à chacun suivant. Finalement, un petit peu l'intensité de la journée. Et moi, la journée, elle avait été extrêmement intense. Je ne vais pas dire qu'on a repoussé nos limites, mais on est allé loin, en fait, dans cet engagement et dans ce côté physique, finalement, où on a fait un effort qui était incroyable et mentalement, on est allé loin. Et je pense que la récompense, elle est d'autant plus belle quand on a fait un effort dingue et qu'on a eu des conditions qui étaient compliquées et qu'on est là-haut, au sommet de son Graal, après tant d'années de rêves, parce que moi, ce sommet, j'en ai rêvé, mais je ne sais plus combien de fois. Je pense que j'ai dû mettre les pieds là-haut, peut-être 50 fois dans ma vie, dans mes rêves, quoi. Donc, quand on accède, en fait, à ça, on est secoué par un cocktail d'émotions qui est incroyable. Justement, j'ai du mal, en fait, à trouver mes mots, parce que c'est tellement difficile à exprimer ce type d'émotion, il faut le vivre et... Ouais, ça part de son cœur et ça rayonne tout autour de soi, quoi. C'est incroyable. Et quand lui, il arrive au sommet, moi, je me retourne, je me lève, en fait, pour l'accueillir dans mes bras. Et là, je me rappelle que je crie, je fais « Tomek, on est au sommet ». Et c'est là, à ce moment-là, que je vois, en fait, la peur dans ses yeux bleus, là, qui résonnent encore en moi. Et quand je vois encore cette image, c'est assez incroyable. Et là, il me dit « Ellie, je te vois plus et je vois ta frontale floue, quoi ».
Il devient aveugle.
Il devient aveugle, en fait, au sommet. Et à partir de ce moment-là, moi, tout s'écroule.
Pourquoi il devient aveugle ? Parce qu'il a enlevé ses lunettes ?
Ça peut être soit il a enlevé ses lunettes, soit ça peut être le début de l'œdème. Donc il y avait déjà en fait les vaisseaux qui étaient comprimés, donc ça lui a obstrué en fait la vue.
Donc pour toi à ce moment-là c'est la panique parce qu'il faut penser à redescendre vite. Il fait un froid épouvantable et non seulement c'est difficile, mais tu vas avoir sur ton dos entre guillemets ton acolyte qui est devenu aveugle.
Oui, moi, ça a été un moment en fait extrêmement compliqué où déjà il a fallu que j'accepte et je me dise ouais, ben là on a un accident et en fait on est au plus loin de la vie. Et puis après, c'est passer de cette panique à l'acceptation et à se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant. Moi, ma seule façon en fait d'avoir pu gérer finalement le problème, ça a été de décortiquer cette descente où là je me suis dit bah ok, déjà je vais mettre Tomek sur mon épaule, je vais voir si ça fonctionne, si on arrive à s'harmoniser. Il faut qu'on passe cette zone mixte, puis après le couloir, et puis après les pentes de neige.
Je rappelle juste une chose pour ceux qui ne te connaissent pas physiquement. Tu mesures 1m56. Donc on imagine Tomek, gaillard, puissant, sur ton épaule, dans une descente engagée. Ça paraît très compliqué.
Ouais, ça a été compliqué. Après, je pense qu'à ce moment-là, on a des ressources en fait à l'intérieur de soi qui sont incroyables parce qu'on est dans un moment de survie. Et puis Tomek, il m'a énormément aidée dans cette phase-là. Il a été incroyable et il a été dans une abnégation et il s'est éloigné de cette souffrance qui l'attaquait et qui le rongeait au fur et à mesure. Et il m'a aidée dans cette descente de façon incroyable. Et je pense que quand on est dans un mode de survie, on a des ressources qu'on va chercher, mais vraiment très très loin. Et Tomek, il est allé chercher très très loin des ressources qui ont permis en fait qu'on descende et il m'a sauvé à ce moment-là parce qu'il a été capable de descendre jusqu'à...
À ce moment-là, bien évidemment, de la situation auprès de ton routeur, Ludo, de ton mari, et tu reçois un qui doit faire plaisir, le message d'Anna, la femme de Tomek, qui te dit « J'ai confiance en lui, j'ai confiance en vous ».
Ouais, Anna, elle était incroyable, tellement qu'elle était positive en fait, et même tous les messages en fait que j'ai reçus ont été extrêmement positifs. Et là, je me suis dit, on n'abandonne pas. Et c'est un message que j'ai transmis à Tomek, ça lui a donné de la motivation, de l'énergie. Ouais, Anna, elle a eu un rôle incroyable en fait dans cette histoire, parce que personne n'a baissé les bras finalement sur cette montagne et on m'a jamais dit c'est fichu pour toi et vous êtes trop haut, c'est terminé. Non, on nous a toujours motivés, on a toujours dit il y a une solution, il faut se battre, il faut continuer. Et tant qu'on a été sur cette montagne, finalement, ça a été tout le temps ces solutions et cette positivité et se raccrocher finalement à la vie, quoi. Donc, les personnes, oui, qui ont échangé avec moi sur cette montagne, elles ont eu un rôle mais capital.
Alors, tu as entamé cette descente et à un peu plus de 7000 mètres d'altitude, tu décides de laisser Tomek dans une crevasse parce qu'il est incapable de poursuivre la descente qui devient trop dangereuse. Et à ce moment-là, tu pars seule.
Oui, à ce moment-là, j'ai eu à décider, en fait, finalement, sur cette montagne où moi, j'ai été toujours dans l'espoir d'un secours, où je savais que dans tous les cas, moi, je ne pouvais pas le porter sur mes épaules. Donc, tant que Tomek était capable d'avancer, de mettre un pied devant l'autre, je pouvais l'amener dans la descente, mais qu'à partir du moment où il ne pourrait plus marcher, c'était impossible et on était condamnés.
Alors, ce qui est important de dire, c'est que, aussi, à ce moment-là, tu comprends, à travers les conversations que tu as avec ton équipe, que si un hélicoptère trouve une bonne fenêtre météo pour monter à cette altitude, il ne pourra prendre qu'une seule personne. Et donc, eh bien, cette personne-là ne peut être que Tomek et que toi, tu dois descendre plus bas pour être récupéré.
Oui, exactement, parce qu'on est en hiver et on sait que la portance, elle est moindre parce qu'il fait plus froid. On sait que déjà, pour que ça arrive à cette altitude, il faut un créneau en fait, assez exceptionnel. Donc oui, à ce moment-là, on sait qu'il n'y a qu'une personne qui peut être récupérée à 7002, il n'y en aura jamais deux. Et donc il n'y a pas un secours possible pour deux personnes, c'est tout simplement inimaginable. Donc oui, la seule solution que Ludo m'aide à prendre, c'est de descendre en fait, d'arriver à 6007 et qu'on puisse récupérer Tomek, qu'on puisse après me récupérer ou qu'on envoie en fait des personnes et qu'on remonte en fait récupérer Tomek et qu'on soit plusieurs à l'aider pour redescendre à cette altitude où l'hélico peut arriver. Donc ça a été voilà les scénarios qui ont été dessinés, sachant que voilà il y a toujours l'inconnu parce qu'on ne sait jamais la météo, on ne sait jamais si l'hélico peut voler. C'est des si, dans tous les cas ça reste des si.
Elisabeth, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec des mots, avec des gestes peut-être, avec Tomek? Quand tu l'installes dans cette crevasse et que tu le quittes, que tu t'en vas?
Bah moi, les derniers mots que je lui ai dit, c'est « Ne t'inquiète pas, ton mec, il y a un secours qui arrive, on vient te récupérer. »
Il y croyait?
Moi, j'y croyais, ouais.
Et lui?
Ton mec, je sais pas, parce qu'il était déjà loin, en fait, dans sa souffrance. Il savait que dans tous les cas, il n'y avait pas de solution et que la seule solution, elle pouvait venir des airs. Est-ce qu'il y croyait à ce moment-là? Est-ce qu'il commençait déjà à partir? Je sais pas. C'est compliqué. Moi, c'est des questions qui restent dans ma tête, qui forcément seront toujours là. J'ai pas forcément de réponse toute posée à ça. Je sais pas.
Les médecins que tu as interrogés disent que, compte tenu de son état, celui que tu as décrit, Tomek a dû mourir assez vite, victime de cet œdème. Est-ce que c'est quelque chose qui te rassure ou quelque chose qui te fait dire aujourd'hui « j'aurais peut-être dû rester avec lui » ?
Ben, y a les deux. Il y a les deux parce que forcément, ça me rassure parce qu'on ne sait jamais en fait la mort et on ne sait jamais comment ça se passe. Et me dire que voilà, il s'est endormi tout simplement et que le froid l'a anesthésié et qu'il n'a pas souffert, ça m'aide aussi à faire ce deuil. Après, forcément, je regrette moi de ne pas être restée avec lui sur ces derniers moments. Donc, je suis vraiment dans les deux côtés, quoi.
Est-ce que c'est quelque chose qui hante ton esprit encore aujourd'hui?
Ça m'a hantée pendant de nombreux mois et je pense que maintenant je suis arrivée un petit peu à me détacher de tout ça et à prendre de la distance justement par rapport à ça, où maintenant quand je repense à la situation, ça me noue en fait à l'intérieur de moi, mais je peux arriver en fait à en parler sans fondre en larmes, et ça je pense que déjà j'ai fait un pas qui était incroyable par rapport à ne serait-ce que l'année dernière. Après, ouais, je pense que ça sera toujours là et ça fait partie de moi, c'est une cicatrice qui est à l'intérieur et qui restera. Ben voilà, je pense qu'il faut apprendre après à vivre avec cette cicatrice et puis à ne pas se laisser bouffer par cette cicatrice.
Elisabeth, je te cite. Tu dis « Aujourd'hui, je me sens responsable de ne pas avoir vu et compris dans quel état était Tomek au moment où je l'ai quitté. » Et peut-être de m'être masqué la vérité.
Oui, complètement. Ça, je l'ai regretté, mais je ne sais pas combien de fois, parce que forcément, je serais restée avec ton mec, je ne serais pas partie.
Mais est-ce que tu pourrais nous parler aujourd'hui?
Non, très certainement pas, parce que je serais restée avec lui là-haut.
Tu serais morte?
Ah bah oui.
Aussi, si tu restais ne serait-ce que quelques heures en plus à ses côtés dans ce froid, avec ce vent épouvantable, tu penses que tu n'aurais plus la force de repartir, de descendre?
Je sais pas, c'est compliqué en fait à dire ça. Hein. Et c'est sûr que plus on reste à cette altitude, très haut en fait sur la montagne, exposée au vent et au froid, et plus nos chances en fait diminuent. Donc je sais pas. Ça c'est des questions qui m'ont fait extrêmement peur finalement au retour.
Je voudrais qu'on s'imagine maintenant avec toi dans cette descente solitaire, notamment la nuit, et notamment cette troisième nuit horrible, ce sont tes mots, où à 6700 mètres d'altitude, dans une espèce de rêve, de semi-conscience, tu perds l'une de tes chaussures.
Ouais, ça a été, comme je dis, en fait, des moments extrêmement compliqués, en fait, où le corps, il est tout simplement sur la corde. Et je pense que le cerveau, il se raccroche à la vie. Et pour ne pas sombrer, moi, je suis partie, en fait, dans des rêves de chaleur. Et ce rêve de chaleur m'a extirpée, en fait, d'un songe qui m'aurait très certainement, en fait, emmenée dans l'au-delà. Moi, j'ai rêvé de chaleur à ce moment-là et de cette vieille dame qui m'a amené un thé chaud et ça a réduit mes tremblements et elle me demandait une chaussure en offrande et moi, je lui ai donné à ce moment-là. Et je pense que le cerveau, il s'est complètement mis en off et j'étais dans une espèce de rêve paradoxal, peut-être une hallucination, je sais pas. Mais c'est ce qui m'a sauvée aussi, finalement, à ce moment-là. Donc, ça a été une offrande de la chaussure qui m'a reconnectée, finalement, avec la situation dans laquelle j'étais et qui a permis que je franchisse pas la barrière, quoi. Là, ce sont en fait des situations que humainement, on ne peut pas comprendre parce qu'il n'y a que dans un mode de survie qu'il y a des choses qui se passent et qui fait qu'on est en vie aujourd'hui ou qu'on passe de l'autre côté et des fois, il ne faut pas grand-chose, quoi.
Ce qu'il faut bien comprendre aussi, Elisabeth, c'est que tu es en communication très régulière avec Ludo, avec ton mari. Tu essayes de limiter parce que tu as de moins en moins de batterie. Et puis, on te laisse envisager l'arrivée d'un hélicoptère. Et puis cette arrivée est repoussée encore, et tu te retrouves une quatrième nuit seul dans le froid. Et là, tu dois un peu ton salut à des cordages placés par des Sud-Coréens auparavant. Et puis la délivrance, parce qu'on peut parler de délivrance lorsque deux alpinistes, Denis Urubko et Adam Bielecki, te rejoignent. Ces alpinistes qui étaient en train de gravir le K2, le deuxième plus haut sommet du monde, et qui, sachant que vous étiez en difficulté, ont tout interrompu pour venir à votre rencontre. Raconte-nous ce moment où tu passes d'une solitude épouvantable à cette rencontre avec notamment Denis, qui est l'un de tes mentors dans ce milieu.
Ouais, ça a été une situation complètement improbable où moi j'étais seule dans la nuit où il y avait simplement la lune en fait qui réverbérait un petit peu de lumière pour éclairer ma voix sur cette glace vive bleue où il y avait quelques bouts de corde fixe où moi j'étais reliée en permanence dessus parce que c'était mon lien avec la vie. Et j'étais fatiguée, je me rappelle à un moment et je m'étais posée en fait sur un caillou et là dans la brume en fait je vois deux faisceaux lumineux qui arrivent. Et là je me dis mais c'est pas possible, ils sont montés quoi. Et là c'est 1h30 du matin ou 2h du matin. Dans la solitude la plus totale, il y a des lumières qui arrivent à soi. Et ouais, moi, je me suis posée sur ce caillou et je pense que ça a été le plus beau balai de ma vie parce que c'était un moment qui était tellement inattendu, tellement de souffrance, tellement d'isolement, tellement de solitude, tellement de tout que là, voilà, il y a quelque chose qui arrive, quoi. Donc, ce sont des moments incroyables.
Tu n'as quasiment rien mangé, rien bu depuis le début de cette descente. Tu as des plaies au visage, aux lèvres, à la langue parce que lorsque tu tentes de te désaltérer avec la glace, ça abîme tes tissus. Et là, dans un bivouac précaire avec Denis et Adam, tu retrouves des plaisirs simples. Ils te donnent des gants parce que tu avais laissé tes gants chauds à Tomek à 7200 mètres. Et pour la première fois, tu bois quelque chose de chaud.
Ouais, ça a été incroyable. Hein. Quand je suis arrivée auprès d'Adam, il m'a tendu son camelback. Et ouais, là, je pense que j'ai tiré dessus à plus en pouvoir. C'est même lui qui m'a dit non mais... Il me l'a retiré en fait l'embout. Il m'a dit mais Ellie tu vas gerber donc voilà arrête de boire. Mais ça a été des moments de chaleur, des moments de vie, des moments qu'on peut pas expliquer qui fait qu'on arrive de l'enfer et même si c'est des conditions qui sont encore compliquées et qu'on est encore haut sur la montagne on est au paradis quoi. Donc même s'il y a eu la tempête encore cette nuit-là j'étais dans les bras de deux personnes extraordinaires. Ouais ce sont des moments qui restent extrêmement intenses dans ma vie.
Elisabeth, quand ils arrivent tous les deux, est-ce que tu penses qu'ils vont finalement s'arrêter un petit moment et puis continuer l'ascension pour aller porter secours à Tomek ?
En fait, à ce moment-là, ça s'est passé extrêmement rapidement. Adam, tout de suite, la première question qu'il m'a posée, c'est « Ellie, est-ce que Tomek il peut marcher ?» Et là, je lui ai dit « Non, Tomek il peut pas marcher. » Et sa réponse, tout de suite, en fait, elle a été « Ellie, si on veut sauver Tomek, il faudrait qu'on soit 6 avec de l'oxygène. À 2, on peut rien faire. » Donc à partir de ce moment-là, finalement, tout de suite, la décision elle a été prise. On stoppe l'ascension, on reste avec Ellie et on discute finalement avec le camp de base et avec le chef d'expédition aussi au K2 et on prend la décision. Donc ça a été... Moi, j'ai toujours été dans l'espoir où je me suis masquée finalement un petit peu les choses, où je me suis dit non, mais dans tous les cas, si on ne monte pas ce soir, le lendemain, l'hélico il va monter avec une équipe et on va pouvoir le récupérer. Moi, je me suis dit qu'elle était trop dure en fait à accepter à ce moment-là. Mais finalement, cette décision, elle a été prise tout de suite.
Pascal, Elisabeth, si tu avais eu ton esprit parfaitement clairvoyant, tu aurais compris tout de suite qu'après autant d'heures passées dans sa crevasse, compte tenu de son état quand tu l'as quitté, Tomek n'avait aucune chance de survivre.
Oui, mais après, voilà, moi, je me suis masqué la réalité. Après, je pense que c'est le cerveau hein, qui est protecteur, tout simplement, où on est dans l'espoir. Moi, c'est cet espoir qui m'a sauvé en fait, sur cette montagne, l'espoir qu'on récupère Tomek, l'espoir de ce secours. Et donc, quand je rencontre Denis et Dame, c'est encore cet espoir. Mais c'est sûr que ça masque la réalité, forcément. Mais après, ce sont des mécanismes de survie qui s'enclenchent et puis une réalité qui est trop dure. Et si moi, je m'étais écroulée avant ou si j'avais vu la réalité, je ne serais tout simplement pas descendue de cette montagne aussi.
Ensuite, tu es récupéré en hélicoptère au camp de base numéro 1 avec tes sauveurs. Et si c'était à refaire, est-ce que tu repartirais dans ces conditions-là avec Tomek dans son état de forme?
Oui, avec Tomek, forcément, je repartirais. Ça, il n'y a aucun souci. Après, c'est sûr qu'à 90 mètres du sommet, je ferai demi-tour.
Il n'a pas osé te dire « on fait demi-tour », tu penses?
Je ne sais pas. S'il n'a pas osé, s'il a vraiment poussé son corps au-delà, s'il est allé vraiment trop loin... Moi, je ne l'ai pas vu, lui, il ne me l'a pas dit. Est-ce qu'il l'a senti? On a toujours discuté, on a toujours posé les choses à plat avant, on a toujours décidé ensemble, et on s'était déjà imposé le demi-tour, on a pris cette décision ensemble.
Ouais.
Donc là, à 90 mètres du sommet, quand il me dit que ça va, bah pour moi, ça va, et je pense que pour lui, ça va aussi. Mais ça reste encore décis, parce que voilà, on n'a jamais discuté.
Pourquoi ne l'a-t-on jamais retrouvé dans sa crevasse?
Tout simplement parce que ça a été une décision de sa famille de ne pas exposer en fait, des Sherpas ou faire monter un hélico pour récupérer en fait, le corps. Et c'était une chose en fait, assez importante pour sa femme de le laisser là-haut sur cette montagne.
Il est allongé dans la position où tu l'as laissé, sans doute?
Ah, bah, sans doute, ouais, je pense. Ouais.
Tu remonteras peut-être, toi?
Je voulais y remonter. L'année dernière, je me suis dit le premier sommet, en fait...
T'as envie de le retrouver, toi?
Non. Non, parce qu'en fait, Tomek, il est tout autour de moi aujourd'hui. Et je suis arrivée à me détacher de ça, où je me dis, bah, c'est un corps finalement qui est là-haut, et Tomek, il est autour de nous, il nous aide. Mais non, je veux pas. Je veux pas voir son corps, ça c'est sûr. Parce que ça serait, je pense, trop dur et un traumatisme encore plus grand. Et puis, je préfère me rassurer en me disant, voilà, Tomek, il est autour de nous. Maintenant, je pense à des choses positives. Et puis, je me rassure en disant que voilà, c'est simplement un corps.
Elisabeth? C'est dur ce que je vais dire, mais est-ce que c'était pas finalement un peu le destin de Tomek que de mourir tout à côté du sommet qui l'a fait vibrer pendant tant d'années?
On en a énormément parlé en fait avec ses amis, avec sa famille, et finalement c'était peut-être la plus belle chose, la plus belle fin peut-être voilà, pour lui. Après peut-être que ça nous rassure aussi, et je vais pas dire qu'on est heureux, mais dans tous les cas avec sa femme, avec ses amis proches, on a fait ce deuil-là et on s'est dit, bah, Tomek, il est resté là-haut, il est resté sur sa montagne, il est resté avec sa divinité. C'est comme ça, on n'a pas pouvoir de décision là-dessus. Et on l'a accepté. Donc c'est sûr que maintenant, Tomek, on le voit de façon différente et on l'a accepté finalement avec sa fin qui lui appartient, qui lui est propre, qui était sa destinée et qu'on ne peut pas changer dans tous les cas.
Je te cite à nouveau, tu dis Tomek, c'est une rencontre à la fois au goût amer et doux de la liberté. Tu veux dire quoi?
Ben, je veux dire que Tomek, il m'a emmené dans la plus belle liberté qui soit sur cette montagne, où il m'a emmené sur des choses complètement nouvelles. Donc, une liberté en fait, sans précédent, une liberté détachée de tout, du monde, de la société dans laquelle on vit, de toutes ces choses en fait, qui avaient formaté ma vie et qui étaient devenues ma réalité. Là, j'ai découvert une autre réalité. Et donc ça, c'est la douceur par rapport à la liberté. Et après, c'est sûr que l'amertume, c'est cet accident. C'est le fait qu'il soit resté là-haut et qu'il soit jamais redescendu et qu'on ne puisse plus partager toute cette philosophie de vie, toute cette belle énergie qu'il avait pour le monde, pour l'univers, pour les gens autour de lui. Donc ça, c'est le côté amer parce qu'il me manque. Parce que voilà, un deuil, c'est toujours difficile à accepter quand on perd quelqu'un qui a amené... Enfin, moi, qui a complètement bouleversé ma vie et changé ma vie. Voilà, c'est le côté amer en fait qui reste où on en voudrait encore plus de cette belle personne et qui continue en fait à me nourrir.
Il y a cette conférence de presse le 7 février 2018 à Chamonix. Tu parles de cette période comme d'une période un peu infernale parce que tu es blessé psychologiquement, physiquement aussi.
Oui, bah moi, c'est un moment en fait extrêmement compliqué où j'ai toujours été en fait dans l'espoir encore de sauver ton mec pendant que j'étais à l'hôpital à Sallanches. Et c'est le dernier jour avant de sortir où là, je sais en fait qu'il n'y a plus d'espoir et je sais que bah, ton mec, il ne reviendra plus. Donc, c'est le début du deuil, comme on dit, qui passe par la colère. Donc, le début de la colère, bah, c'est une colère envers soi-même, envers ton mec, envers toute l'équipe secours, envers mon routeur, envers tout un tas de choses. Je pense qu'il faut du temps pour accepter les choses et... Quand on part à chaud d'un drame qui a marqué ma vie et qui a été extrêmement compliqué, oui, il y a des nouvelles souffrances qui sont nées en fait de cette prise de parole, des jugements, des critiques, tout un tas de choses où je pense que plus on est éloigné de la scène et moins peut-être on comprend les choses.
Quelle relation tu entretiens aujourd'hui avec Anna, l'épouse de Tomek ?
Avec Anna, on est comme des sœurs, je pense.
Elle ne t'en a jamais voulu.
Anna, non, jamais.
C'est une formidable marque d'amitié et de confiance.
Oui, mais Anna, en fait, elle est incroyable. Et puis après, elle a fait partie en fait de ce secours, donc elle sait exactement ce qui s'est passé en fait sur la montagne. Et elle sait que dans tous les cas, malheureusement, je pouvais plus rien faire en fait pour Tomek. Donc là, au contraire, elle est heureuse que je sois en vie. Elle est heureuse que je témoigne de qui était Tomek, de qui était son mari, de qui voilà, qui était cette belle personne. Donc avec Anna. Je pense qu'au retour, on a été extrêmement solidaires, où elle a été dans la souffrance. Et j'ai essayé de lui apporter quelque chose, même si c'est compliqué en fait pour moi. Et elle m'a énormément aidée aussi dans toute cette phase où je sombrais dans les profondeurs et elle a évité que je me fracasse aussi. Donc, moi, ouais, je pense que cette expérience, elle nous a soudés. Elle nous a soudés dans l'amitié et presque dans la fraternité. Donc, ouais, Anna, c'est une femme incroyable.
Comment tu analyses le fait que dans ta vie exceptionnel d'alpiniste aujourd'hui, tu as perdu deux de tes compagnons dans des situations très différentes, mais à chaque fois en Himalaya et à chaque fois pas très loin du sommet d'un 8000.
Parce qu'on est sur des itinéraires, je pense, engagés et qu'on engage sa vie tout simplement là-haut et qu'on sait qu'on n'est rien, on sait qu'on n'a pas notre place en fait là-haut. Et sur un détail, en fait, tout peut basculer et ça, on l'accepte hein, quand on part là-haut. Sauf que retour, en fait, quand ça se passe mal, on ne l'accepte pas. Mais je pense que peut-être on peut se laisser un petit peu dépasser par son ambition parfois. Et on parle de l'ivresse des cimes. Moi, j'ai jamais été en fait dans l'ivresse des cimes, mais peut-être que mes camarades en fait ils ont subi cette ivresse des cimes où ils ont été aimantés par ce sommet, par l'atteinte de cet objectif, et que le sommet c'est pas simplement le sommet à atteindre de façon à tout prix. Il faut toujours penser au retour et que le sommet on l'a gravi une fois qu'on est au camp de base.
Elisabeth, aujourd'hui, est-ce que tu ressens des séquelles physiques ou psychologiques ?
Ben, j'ai mis du temps en fait à récupérer de tout ça, autant physiquement que psychologiquement. Je pense que voilà, l'année dernière, c'était pas encore tout réparé et que depuis, j'ai de nouveau progressé. J'ai semé beaucoup d'émotions positives sur toute cette période. J'ai fait énormément de thérapie. Je me suis détachée en fait de toutes ces images chocs, de tout ce traumatisme en fait que j'avais vécu et même les images en fait de Tomek que je voyais en fait devant mes yeux en permanence et qui m'agressait. Donc j'ai apaisé tout ça et me positionnais finalement un petit peu en spectateur. C'est mon histoire qui me brasse encore, qui me remue encore, mais finalement voilà, c'est une histoire de ma vie et c'est pas toute ma vie. Maintenant je suis dans le présent et il faut que j'avance. Donc ça a été un cheminement long, très très long, où je pense que je suis descendue très très bas. J'ai jamais été dans une telle souffrance. Et je pense que c'est vraiment quand on est dans une souffrance au fond du puits, vraiment dans le noir, où ben, on commence à percevoir une toute petite lumière. Et après, on se raccroche à cette petite lumière parce qu'on n'en peut plus d'être dans cette souffrance. Et après, cette lumière, finalement, elle nous emmène haut, très haut, et on voit là de façon complètement différente. Et que voilà, ma vie n'est plus du tout la même.
Tu passes un an sans repartir vers de grands sommets. Et puis en 2019, ben, tu pars vers la plus belle, la plus grande, la plus célèbre. Tu tentes l'ascension de l'Everest. Ton objectif au départ, c'est de l'atteindre, le sommet, sans oxygène. Et puis, eh bien, ça ne se passe pas comme tu veux, notamment parce que l'Everest n'est plus ce que c'était, c'est-à-dire une montagne vierge. Aujourd'hui, c'est presque une autoroute à alpinistes en devenir.
Il fallait que je reparte en fait sur un projet et que mon retour à la vie en fait passerait par la montagne. Et donc ce projet en fait d'Everest, c'est particulier parce qu'en fait, c'était mon rêve de gosse. Et donc, quand j'étais gamine, j'avais un poster de l'Everest dans ma chambre. Et tous les soirs, je m'endormais avec la face ouest de l'Everest. Et c'était mon rêve le plus profond. Et quand j'ai commencé, en fait, après l'alpinisme et l'Himalaïs, je me suis déroutée de ce rêve, parce que c'est l'Everest, parce que financièrement, c'est extrêmement cher. Et puis aussi parce que c'est maintenant devenu, entre guillemets, une banalité, et une autoroute équipée de cordes fixes, d'oxygène et de Sherpa. Et donc, c'était plus forcément la montagne de mes rêves. Sauf qu'en 2019, après ce que j'avais vécu sur le Nanga, c'est de nouveau devenu cette montagne des rêves et qu'il fallait que je retourne dans l'imaginaire de mon enfance pour me reconstruire, pour semer de l'émotion là-haut et revivre, en fait, tout simplement, quoi.
Et donc, bah, tu constates de tes propres yeux ce qui se passe. T'es victime, c'est terrible de dire ça, mais d'un embouteillage. Et comme il est impossible de rester à ces altitudes, eh bien, sans oxygène très longtemps, tu es obligé de prendre de l'oxygène pour atteindre le sommet.
Voilà, si je veux en fait aller au sommet, je suis obligée en fait à ce moment-là, sinon c'est prendre trop de risques. Et moi, un an après le Nanga Parbat, je ne suis pas prête à prendre des risques. Surtout que j'avais promis à mon mari de ne prendre vraiment aucun risque en fait sur cette montagne. Donc oui, j'ai recours à l'oxygène. Et finalement, même, je suis contente de prendre l'oxygène parce que ça casse cette routine de performance qui me collait à la peau depuis pas mal de temps, où j'étais toujours dans le toujours plus, toujours plus loin, toujours à me découvrir en nouvelle situation. Et là, effectivement, c'est vrai, je veux me découvrir là-haut par mes propres moyens. Donc, ne pas utiliser en fait d'oxygène, et je dois utiliser en fait l'oxygène. Donc, il y a toute une mécanique en fait qui s'est mise en place là-haut, le fait d'accepter de prendre l'oxygène, parce que je veux y aller et parce que cette reconstruction, en fait, elle passe par le sommet. Donc, casser un petit peu toutes ces images et tous ces codes, ça a été aussi quelque chose de grand, hormis aussi le fait que voilà, l'Everest, c'est le sommet incroyable aussi de ma vie, quoi.
Bon, puis ensuite, ben, tu seras plus dans ton élément dès le lendemain en réussissant l'ascension du Lhotse pour la deuxième fois de ta vie, sans oxygène, et puis un autre 8000 à ton actif en cette année 2019, le Manaslu. La question que j'ai envie de te poser pour terminer, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de repartir dans une conquête engagée? Et si oui, est-ce que tu accepterais de le faire comme tu l'as fait avec Tomek, en binôme, avec quelqu'un d'autre?
Bah pour l'instant, non, je ne suis pas prête en fait, à repartir sur un itinéraire engagé et je ne suis pas prête de repartir en binôme non plus parce que je n'ai plus envie d'être responsable en fait, de quelqu'un. C'est trop compliqué, c'est trop lourd à porter quand ça se passe mal. Je n'ai plus envie en fait, d'être responsable de la vie de quelqu'un, je pense, tout simplement. Donc, des choses engagées, non, pour l'instant, voilà, je n'ai pas envie. Moi, j'étais plus sur des itinéraires classiques, voilà, où il y a du monde. Voilà, je m'expose pas à des risques qui sont plus grands que ce que je pourrais prétendre. Mais après, voilà, j'ai toujours aussi cet appel un petit peu de l'inconnu qui est au fond de moi. Je sais pas comment vont être les prochaines années. J'ai des rêves, c'est sûr. Est-ce que ça sera en montagne? Est-ce que ça sera ailleurs? Je sais pas. Mais dans tous les cas, moi, ma vie, elle passe par l'aventure et par l'exploration de choses un petit peu nouvelles. Est-ce que ça sera sur les hauts sommets? Je sais pas. Beaucoup d'inconnus, quoi.
Elisabeth, est-ce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé sérénité et paix intérieure?
Oui, aujourd'hui je l'ai retrouvée, ouais. Grâce à tout un tas de choses, beaucoup de développement personnel, beaucoup de méditation, de yoga, de recentrage sur moi-même. Donc j'ai une vie qui est complètement différente par rapport à il y a 2 ans, ça c'est sûr.
Merci infiniment Elisabeth d'être venue dans Vie d'aventure nous faire partager ces expériences exceptionnelles.
Merci à toi Denis.
Et on se rend compte en t'écoutant que l'aventure c'est un engagement incroyable. J'ai presque envie de parler aujourd'hui, avec ce qui est arrivé à deux de tes compagnons, d'un engagement total, où on donne tout jusqu'à donner sa vie. Et c'est ce qui rend les aventuriers, comme toi, des êtres absolument exceptionnels. Merci Elisabeth.
Merci Denis.
Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.